Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients vont bien.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzels.
Oh, bon, non, merci. Vous venez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
Là où il y a de l'eau et de la farine, il y a des galettes. Ces préparations souvent rondes et plates accueillent partout dans le monde divers accompagnements, avec l'avantage de servir d'enveloppes comestibles, de couverts ou de plats. En France, on a facilement en tête les galettes saucisses bretonnes. Avec le pain, le sandwich entre aussi dans cette catégorie de préparations culinaires facilement transportables. Ailleurs dans le monde, des combinaisons d'eau et de farine de céréales locales ont généré une grande typologie de crêpes et de galettes. Le chapati, typique du nord de l'Inde, le majeb, cette crêpe feuilletée à base de semoule fine très populaire en Algérie, le naan, que l'on mange partout en Asie centrale, comme en Inde mais aussi en Afghanistan, la tortilla, très importante dans la cuisine mexicaine, ou encore le manouché, que l'on retrouve dans la cuisine levantine. Dans cet épisode, nous mettons à l'honneur deux types de galettes. En deuxième partie, je donne la parole à Tina Demeke-Eneyou, cuisinière éthiopienne installée à Marseille depuis 2009, qui avait participé au Refugee Food Festival l'année dernière, aux côtés de la chef Ella Aflalo, qu'on avait déjà reçue dans notre épisode sur la coriandre. Tina nous parle de l'injera, cette grande crêpe caractéristique de la cuisine éthiopienne, mais aussi érythréenne.
On mange aussi avec plusieurs sauces, on peut profiter, le pika, le viande, le poulet, le poisson.
Mais avant ça, j'ai reçu Daniela et Luis du restaurant Ari Dulce, qui propose à Paris une cuisine vénézuélienne gourmande et colorée. Au micro de Bouffon, Daniela et Luis parlent de arepa, cette spécialité culinaire vénézuélienne mais aussi colombienne à base de maïs. Cet enregistrement a été réalisé avant le Covid-19. À travers l'arepa, on a évoqué avec nos deux invités la situation du Venezuela en crise économique et politique depuis 2012.
Alors l'arepa, c'est une galette de maïs. C'est une galette typique de chez nous, le Venezuela. En fait, je veux dire, je pense que c'est le produit phare de notre gastronomie. Elle est préparée avec la farine de maïs blanc. Et voilà, c'est une galette qui est très très bon. On la prépare d'abord à la poêle. On fait une petite croûte qui est très croustillante et voilà, délicieux. Et après, on finit la cuisson au four. C'est une des façons traditionnelles pour le faire. Dans un plancha qu'on appelle boudare. Et voilà, donc cette galette, après, c'est vraiment flexible, c'est vraiment polyvalent, je sais pas comment dire.
Et du petit déjeuner au dîner,
oui,
en fait.
Oui,
hein,
petit déjeuner, dîner, un peu, on peut le manger à n'importe quel moment de la journée. Et puis, on peut la manger avec n'importe quelle garniture. Par exemple, pour les petits enfants à l'école, tu peux faire avec jambon beurre ou jambon fromage. Et puis après, si c'est pour un dîner ou quelque chose plus un repas plus copieux, tu peux faire avec le bœuf, poulet. Donc et c'est vraiment une galette qui est représentative de notre gastronomie. Comme j'ai dit, c'est un produit phare et tout le monde le mange en fait. Et Daniela, par exemple, elle dit tout le temps que c'est un point de union, un point de congrégation de tous les Vénézuéliens. Peu importe ta race, ta situation sociale, peu importe tes préférences, tu vas toujours manger des arepas au moins plusieurs fois par semaine. Donc voilà, c'est ça. C'est un produit qui est très aimé pour les Vénézuéliens. Et voilà, c'est tout simple. C'est du maïs, mais très très bon.
Un peu comme le pain ici en France. Alors, c'est un trait d'union qu'on va trouver vraiment entre les classes sociales. On a fait là récemment un épisode sur le pain et c'était ce qu'on se disait aussi, c'est que le pain, c'est une préparation qu'on trouve à la table de vraiment toutes les classes sociales, tout type de personnes en fait.
Oui, tout à fait. T'as raison, c'est exactement ça. Et en fait, parce que tout le monde à la maison, on peut la préparer en fait. Il y a pas de boulangerie comme pour le pain. C'est vraiment, t'achètes la farine et tu prépares le pain à la maison. Tu prépares l'arepa à la maison, la galette. Et après, tu peux faire aussi la galette frite. Il y a différentes façons de préparer. Mais c'est ça, c'est vraiment un symbole de chez nous.
Alors, tu disais qu'en plus, donc là, il y a une coque un peu croustillante. Donc, oui. Ça, c'est grâce à la cuisson à la poêle.
Exactement.
Et ensuite, la texture un peu plus moelleuse à l'intérieur, ça, c'est un truc qu'on obtient avec la cuisson au four, alors.
Exactement, t'as tout à fait compris. Donc cette poêle là, en fait, elle est le matériel, c'est du fer en fait, et s'appelle boudare. C'est vraiment épais et tu peux faire la cuisson juste là. C'est vraiment homogène la température pour la cuisson et tu fais cette petite croûte qui est un peu croustillant, dorée et puis très délicieux.
Donc tout le monde sait faire des arepas au Venezuela, on peut dire.
Oui. On va dire ça. Il y a.
C'est la base.
Oui, c'est la base. Il y a, voilà, il y a. Parce qu'après, c'est une galette qui vraiment, elle est jolie quand elle est bien ronde. Mais après, ça dépend de la géométrie. C'est pas le point fort de tout le monde. Donc, finalement, il y a des arepas qui peuvent sortir un peu, pas très rondes dans la forme. Mais oui, à la base, au moins tous les grands-mères savent faire des arepas déjà.
Ouais. Dans une famille, on peut souvent dire, cette personne, c'est la personne la plus forte niveau arepas. Il y a peut-être comme ça les meilleures recettes de cette tante, de ce cousin.
Oui, il y a surtout l'idée de partager les repas et surtout l'idée de c'est quoi la meilleure garniture que tu peux faire pour les arepas. Mmh. D'accord, donc c'est ça. Et voilà, on peut parler après de ça, mais il y a dans différentes régions, ça peut changer un peu la recette. Par exemple, je suis très fier d'une arepa qu'on trouve dans ma région. Ça s'appelle Paraguana. Et en fait, c'est une arepa qui est préparée avec le maïs, il n'est pas fait en farine. Et le maïs, il est cuit avec un produit qui fait que la peau du maïs, elle tombe. Mmh. Donc, c'est un produit que finalement, on l'a dit arepa pelada, parce que le maïs, il est pelado. Voilà, pelado, ça veut dire mondé.
Oui.
Oui, donc il n'y a pas la peau de maïs. Et avec ce maïs-là, on le moule. Et voilà, avec le maïs moulu, tu prépares une arepa qui après, c'est pas, la couleur, elle n'est pas blanche comme le reste des arepas avec la farine. C'est une couleur qui est un peu plus marron, c'est un peu plus dans le terreux, c'est plus profond le goût et c'est très bien. Et nous, on le mange par exemple avec du fromage frais ou avec la crème fraîche.
D'accord. Et ça, on le trouve pas partout dans le pays?
Oui, non, là, c'est juste dans ma région, en fait, c'est à l'ouest du Venezuela, à la plage.
D'accord. Et alors, rappelle-nous donc les ingrédients qu'il y a dans une arepa.
Alors, c'est très simple. Il y a du maïs, de l'eau et du sel. Bah, la farine de maïs, quoi.
Ouais.
C'est très simple à préparer. Il n'y a pas de levure ni rien comme ça. En fait, c'est comment on prépare la petite croûte d'abord, comme je vous ai expliqué. Donc, quand elle est cuite au four, cette croûte ne permet pas qu'il sort un peu de la vapeur qui se génère dans l'arepa le temps qu'elle est cuite. Donc, elle gonfle un peu. Donc, finalement, tu vois que c'est un pain que tu peux dire qu'elle est plate en cuisson sur la poêle. Mais après, dans le four, elle gonfle comme ça. Elle est un peu rond comme ça grâce à la chaleur qu'il y a dedans.
Ah oui.
Et pendant la cuisson. Et oui, c'est très bon.
Et donc, à la base des arepas, il y a la farine de maïs blanc. Mais j'ai lu sur Internet que jusqu'en 2015 encore, les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes consommaient donc autour de 750 arepas par an. Donc, ça fait une moyenne de 2 par jour et par personne. Mais qu'aujourd'hui, donc, c'est plus compliqué avec la crise économique, c'est ça? Parce que l'année dernière, le taux d'inflation a atteint les 13 800%. Et donc, dans ce contexte, la farine pré-cuite de maïs, qui est la harina pan, ouais. Donc c'est une préparation qui simplifie la préparation des galettes, il me semble. Enfin, c'est une farine qui simplifie la préparation des galettes. Tout ça, maintenant, c'est distribué au compte-goutte par les services de rationnement alimentaire. C'est ce que j'ai lu dans un article de Géo.
Oui, exactement. Tout à fait. Je connaissais pas les chiffres de 2 arepas par jour par personne, mais ça me semble tellement correct. Voilà, on mange des arepas tous les jours. Comme je vous dis, c'est à la maison tout le temps. Mais oui, c'est vrai qu'avec la situation du pays actuellement, c'est un peu compliqué. Je pense même que les chiffres d'inflation, c'est dans les millions, pas dans les milliards.
Ouais.
Et voilà. Mais je pense que Daniela, elle connaît très bien le sujet, donc je veux la laisser parler sur le sujet de la situation au niveau alimentaire du Venezuela. C'est très intéressant. Elle est passionnée de ça.
Ouais. Bon, je connais. Je pense que mon approche, c'est un peu pareil de tous les Vénézuéliens qui sont sur place, qui sont toujours là-bas, qui galèrent un peu, et aussi les Vénézuéliens qui sont quittés le pays. Donc effectivement, l'harina pan, les produits harina pan, ça a aidé dans les années à peu près, je pense, 50, si je ne me trompe pas, à démocratiser la préparation de l'arepa en soi. Parce qu'avant, à l'époque de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère même, Et la farine, elle a fait ça elle-même, en fait. Donc, ce n'était pas quelque chose de, on va dire, industriel, entre guillemets, parce que c'est toujours artisanal. Mais, on va dire, elle achetait le maïs, elle élevait tous les grains de maïs. Et après, avec un espèce de matériel qui s'appelle pilon.
Donc, ah oui, un pilon, un mortier aussi.
Un mortier, voilà. Donc, elle mixait le maïs et après, elle faisait tout le processus pour avoir... après la farine. Évidemment, c'était très, très long à faire. Donc, la consommation de l'arepa, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, il fallait se lever très, très tôt pour pouvoir faire les galettes. Mais quand l'harina pain, il n'a pas ouf. Donc, évidemment, l'arepa était beaucoup plus répandue, on va dire. Donc, l'arepa était beaucoup plus démocratisée et tout le monde pouvait manger l'arepa n'importe quel moment de la journée. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, tout est contrôlé depuis très, très longtemps. En fait, l'État, il contrôle l'alimentation, il contrôle tout l'industrie principale de pays. Donc, évidemment, quand il essaye de mettre un même prix à tous les produits, et les agriculteurs, les gens qui travaillent dans l'industrie alimentaire, et ils s'en sortent pas. Parce que c'est pas la même chose quand on achète quelque chose qui vient, voilà, et comment on va vendre ce produit. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de ce que le gouvernement ou l'État impose, en fait, en tant que prix. Donc, évidemment, l'industrie, la principale qui produisait l'harina pain, c'était Empresas Polar. Donc, il a dû quitter le pays pour pouvoir continuer la production. Donc, ah oui. À un moment donné, il y a un moment qu'il y a eu des pénuries, évidemment. Donc, c'était très difficile de trouver l'harina pain. Donc, et voilà, il y avait des fils. Enfin, les gens, quand même, ils ont diminué la consommation de la farine de maïs. Donc, ils ont quand même trouvé un moyen de le faire d'autrement. Ils sont revenus un peu à l'époque de ma grand-mère pour pouvoir faire la farine. Et aussi, ils sont trouvés, par exemple, avec la manioc. Et moi, j'ai une tante, en fait, ma tante qui habite plutôt à la côte vénézuélienne, à Margarita, là. Elle utilisait la yuca pour pouvoir faire la farine et pouvoir faire des arepas. Parce que tellement était compliqué à l'époque. Aujourd'hui, je crois que ça a un peu changé, je pense. Et donc, ils ont trouvé un peu le moyen de pouvoir substituer la farine de maïs pour pouvoir quand même continuer avec ces cultures, avec ces traditions de manger l'arepa à la maison, parce qu'en plus, c'est très nourrissant, l'arepa. Donc, on mange même une arepa avec que du beurre. Et comment, il y a des gens qui ont faim, il y a une famine quand même assez importante. Mais avec cette galette de maïs queue avec du beurre, ça remplit un peu... au moins la moitié de la journée.
Oui, c'est vrai que c'est assez généreux comme préparation, donc ça tient bien au ventre.
Oui.
Donc on imagine bien que c'est la base de l'alimentation au Venezuela. Et donc du coup, ça veut dire que ce que tu racontes, ça veut dire que les Vénézuéliens et Vénézuéliennes ont redoublé de créativité pour faire face à cette situation.
Tout à fait, parce que moi je comprends très bien que les gens qui restent là-bas, ils doivent s'en sortir en fait, de trouver un moyen de continuer à vivre et tenir un pouls avec ces cultures et culinaires. Moi je trouve que la cuisine c'est quelque chose, la gastronomie en soi, des un pays, n'importe lequel, il y a beaucoup de valeurs dans cette cuisine. Pour nous, les Vénézuéliens, la cuisine, la gastronomie ou la cuisine, même si c'est très simple, est très important parce que ça nous fait rappeler à la famille, à partager, à voir peut-être la grand-mère en train de préparer un repas hyper long, mais après, à la fin, tout le monde va profiter. Donc, c'est un peu la rencontre. Et moi, je pense que la repa, elle représente ça pour les Vénézuéliens, en fait. Ça nous fait... On ne lâche pas l'affaire, on va dire. Ouais. Donc, même si on n'a pas les ingrédients principaux, donc on essaie depuis très, très longtemps, on essaie quand même de trouver un autre moyen pour continuer à nous attacher avec cette valeur familiale qu'on a depuis des années.
Oui, donc même sans cette harina pan qui est une farine pré-cuite et donc qui permet de préparer plus rapidement des arepas, on va quand même se débrouiller, on va passer plus de temps en cuisine s'il faut ou trouver d'autres farines pour en préparer quand même alors.
Oui, tout à fait. Les Vénéciens sont très attachés à notre culture en général, hein, nos valeurs, et surtout la gastronomie, on est très, très, très attachés à ça. Et c'est quand même intéressant de savoir que quand on habitait au Venezuela, ça m'arrivait à moi, hein, quand j'habitais au Venezuela, on s'apercevait pas, peut-être on donnait pas cette valeur, parce que pour nous c'était normal, pour nous c'était quelque chose de quotidien. Ouais, on va manger l'arepa, on va voir la grand-mère, le soleil, la végétation, etc. Et quand on quitte le pays, et, alors là, on s'aperçoit qu'effectivement il y a quelque chose de très important et qu'on était attaché, mais depuis très longtemps. À ces petits détails.
Oui, c'est avec le recul qu'on se rend compte parfois de l'importance des choses.
Exactement.
Et alors du coup, cette arepa, on peut la manger sous plein de formes, non ? Grillée, frites, cuite au four. Est-ce que, Daniela, tu peux nous expliquer un peu les différentes façons de consommer donc, cette galette ?
Alors, bon, évidemment, au four, c'est les plus, on va dire...
Le classique.
Ouais, les plus classiques, c'est au four. Mais effectivement, aussi, on peut la manger frite. Donc, la cuisson, c'est un peu pareil, enfin, la préparation. Mais sauf qu'on ne la met pas au four, on la met directement à la friteuse. Donc, elle gonfle pareil. Donc, c'est cuit à l'intérieur et c'est beaucoup plus croustillant, évidemment. C'est très, très doré.
Ouais.
Et voilà, donc, normalement, quand on la mange frite, et par exemple, dans mon cas, à la maison, ma grand-mère, elle voulait la manger avec fromage frais. Parce que c'était cette mélange, je ne sais pas pourquoi, mais qu'on la arepa. Et les frites, il est un petit peu plus sucré que d'habitude.
D'accord.
Je crois que c'est une question de cuisson.
Ça dépend peut-être un peu de l'huile utilisée.
Oui, effectivement. Donc, et cette mélange entre le sucré et le salé, nous, on adore au Venezuela mélanger le sucré et le salé. Donc, ma grand-mère, elle préparait avec des fromages frais. Donc, on la garnissait avec ça et on la mangeait comme ça.
Coupée en deux, avec, du coup ?
Oui, tout à l'intérieur et... Et voilà. Après, il y avait une autre version. Je ne sais pas si lui, s'il a mangé, peut-être oui, mais parce que dans la région de Venezuela, ça change hein, en fonction de régions, des familles aussi. Hein. Et donc, on mange aussi la arepa un peu sucrée. Et on appelle, ça s'est cuit en fait avec, c'est frit aussi. Hein. Donc ça s'est cuit, la farine, elle est mélangée avec un papelon. Papelon pour nous, c'est une espèce de canne de sucre de canne. Mais il n'est pas la sucre de canne dont on connaît ici parfois en France. C'est l'industriel, non, c'est la qui n'est pas raffinée en fait. Donc ça, on le trouve aussi au Pérou par exemple. Et, donc on mélange la farine. Avec, on fait le même processus, mais on ajoute le sucre. Et après, on le frit et ça donne un espèce de dessert, mais ce n'est pas dessert. Enfin, on le mange aussi avec du fromage, par exemple.
D'accord.
C'est très, très bon.
Toujours moi, pour avoir le côté sucré-salé.
Oui, toujours pour ce côté salé. Après, je ne sais pas...
Après, on peut la fourrer avec de la viande rouge, c'est ça, effilochée ?
Oui.
Ou alors même, vous en proposez plein d'ailleurs chez Harry Dulcet, plein de versions végétariennes, voire véganes, avec des haricots rouges, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des bananes plantains, ouais. De l'avocat aussi, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Nous, on utilise la viande, c'est effilochée. La plupart, tout est effiloché. Hein. Parfois, je me posais cette question, pourquoi nos grand-mères, elles effilochaient ? Elle filoche à chaque fois ouais. La viande, parce que c'est beaucoup de travail, en fait. Ça, c'est fait à la main.
Ah ben oui, oui.
Tout est fait à la main. Donc, ouais, c'est poulet filoché. On utilise beaucoup l'avocat. Donc, on mélange... On a une recette qui s'appelle reina pepiada. Donc, elle est poulet rôti. Et après, elle est mélangée avec des morceaux d'avocat.
Poulet rôti et filoché aussi, c'est ça ?
Et filoché, voilà.
En même temps, j'imagine que ça doit être plus simple à manger avec une galette, du coup. Ça, c'est vraiment le truc des grands-mères, de simplifier toute la nourriture pour les enfants.
Exactement. Et après, on a aussi, effectivement, on utilise beaucoup les haricots noirs. Et on mélange aussi avec l'avocat. La banane plantain, pour nous, elle est indispensable. Parce que ça donne aussi ses côtés sucrés... Dans les plats, on
ah
va
oui,
dire.
C'est trop bon.
Et aussi, on utilise la banane plantain qui est salée. Elle est verte, en fait.
Oui.
Donc, on appelle ça tortones, par exemple. Donc voilà, on a un pot en variété sucré salé, tout le temps sucré salé.
Et alors j'ai lu aussi qu'il y a une version d'arepa qui s'appelle la reina pepiada, c'est ça? Donc la reine bien roulée, qui a été nommée comme ça en l'honneur d'une Miss Monde, c'est ça? Une Miss Venezuela qui a été ensuite Miss Monde.
Oui, il y a la reina pepiada, c'est une des recettes les plus classiques, les plus connues au Venezuela. Et oui, c'était une Miss Venezuela qui est devenue Miss Monde, la première. Elle s'appelait Susana Duin. Et puis, je pense que c'était une des recettes favorites à elle. Je connais pas très bien l'histoire, hein, mais grosso modo, c'est qu'à Caracas, il y avait un restaurant d'arepas dont elle mangeait tout le temps. Et elle faisait ce mélange pour elle. Elle demandait des arepas avec, voilà, il y a le poulet, l'avocat et tout ça. Et puis, donc, finalement, ils sont nommés l'arepa reina pepiada pour elle. Et puis, ça a devenu quelque chose de très culturel chez nous. Tout le monde adorait la recette.
Ah oui.
Et puis, c'est ça. Ça a devenu une recette des plus classiques pour les arepas, pour les garnitures.
Après notre enregistrement, Louis a raconté la gentille guéguerre culinaire entre le Venezuela et la Colombie qui se disputent la propriété intellectuelle de l'arepa. Mais il y a quand même une différence dans leurs usages dans les deux pays. Au Venezuela, l'arepa est un repas en lui-même, tandis qu'en Colombie, ce n'est qu'un accompagnement. Passons maintenant à l'injera, cette grande galette à base de farine de teff, céréale originaire des hauts plateaux d'Érythrée et d'Éthiopie. Il y a à Paris ce restaurant éthiopien que j'adore, Massawa, qui propose des injera. Le plat arrive sur un vaste plateau à partager à deux ou plus. Les galettes tapissent le fond du contenant et accueillent plusieurs assortiments disposés par-dessus. À côté, il y a une assiette avec des injera roulés comme des serviettes chaudes. Les convives prennent chacun une injera et s'en servent comme cuillère. Depuis Marseille, Tina nous explique en quoi consiste exactement cette galette au goût légèrement aigre et acide.
Injera que nous mangeons partage ensemble avec plusieurs sauces. Donc, pour faire injera, il faut avoir la farine de teff qu'on trouve au bio. Donc, si on n'est pas, c'est pas grave, on peut préparer avec sarrasin. On mélange avec tout simplement avec d'eau. Elle va rester 2-3 jours pour gonfler. Mais après, on peut préparer. Comme crêpe, en fait.
Il faut laisser ça pendant quand même 3 jours.
2-3 jours, exactement.
2-3 jours.
Comme ça, il va gonfler. Ni sel, ni sucre. Ni salé, ni sucré. Donc, juste avec de l'eau.
D'accord. Vraiment juste la farine et de l'eau. Comme on faisait d'ailleurs les galettes bretonnes dans les recettes traditionnelles. Alors, ce qui est chouette avec l'injera, c'est que c'est à la fois une assiette, une fourchette, un accompagnement. Ça fait un peu tout ça, toutes ces fonctions-là.
On peut manger avec la main. On est traditionnel, on mange avec la main. Et on mange aussi avec plusieurs sauces. On peut profiter, le pica, le viande, le poulet, le poisson, plusieurs sauces, il y en a. Donc, on partage... On mange ensemble, quoi.
Est-ce que tu peux nous décrire ces accompagnements, donc ces sauces quel est le goût exactement?
Les sauces poulet, par exemple, nous on dit dorowet. C'est un traditionnel. On peut faire avec plein d'oignons, de l'huile, de pica, plusieurs, et les épices. On les cuire bien. Avec le viande aussi, bœuf, on fait aussi tartare comme chez vous.
Il y a vraiment, oui, plein d'accompagnements. Donc, ça veut dire que c'est un plat de partage et il y a forcément à chaque fois un accompagnement qui peut plaire à une personne autour de la table.
Exactement, oui, c'est ça.
Toi, par exemple, quel est ton accompagnement préféré? Avec quoi tu aimes le plus manger une injera?
Moi, j'aime bien avec dorowet. Elle s'appelle Dorowet, c'est le poulet.
Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices comment se passe exactement le moment où on va manger ce plat, en fait, puisque c'est un plat de partage, donc comment ça se passe exactement? Ça arrive dans un grand plat?
Un grand assiette, on met toutes les galettes au milieu et les sauces, plein de sauces, donc on mange ensemble avec la main.
Et donc, chacun déchire un petit morceau de la galette et la met dans sa main et puis ensuite peut se servir de ça pour attraper les sauces dont tu parles.
Exactement, c'est ça, ouais.
Faire des injera ici en France, parfois ça se fait aussi avec de la farine de millet, c'est ça, à la place de la farine de teff si on n'en trouve pas.
Oui, on peut mélanger la farine de blé avec le sarrasin, on peut mélanger aussi.
Et c'est très difficile, c'est impossible ou c'est juste rare de trouver de la farine de teff en France?
C'est rare pour trouver, même deux fois je vais aller chercher le magasin bio, je ne trouve pas, oui. Il y en a, mais c'est rare pour trouver.
Donc oui, parce qu'en fait, pour le rappeler à nos éditeurs et nos auditrices, la farine de teff, c'est vraiment c'est une variété de céréales qui est indigène, donc qu'on ne trouve vraiment que en Érythrée et en Éthiopie.
Ouais.
Quelle est la place de l'injera, de cette galette en Éthiopie?
On mange tout le temps, mais juste on change la sauce, vous voyez. Par exemple, c'est comme le pain ici, vous voyez. Le pain, oui. On mange avec tout, chaque fois, il y en a le pain. Là-bas, c'est toujours la galette avec plusieurs de sauces. Peut-être Jordan a préparé deux autres sauces, demain un autre. Ouais.
D'accord, oui, c'est vraiment l'équivalent du pain ici.
Oui, oui. Midi, le soir, toujours.
Il y a un truc que j'aime beaucoup avec l'injera aussi, c'est le côté un petit peu acide, un petit peu vinaigré aussi. Le goût de l'injera, en fait, et ça, c'est le côté, cette acidité, c'est obtenu grâce au temps de pause de la farine et de l'eau.
Oui, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui n'aime pas aussi reste longtemps parce qu'il n'aime pas l'acidité, vous voyez.
Oui.
Oui. Mais nous, on est l'habitude de manger l'acidité comme ça, deux, trois jours. Ouais.
Oui, c'est grâce à la fermentation, en fait. C'est ça qui donne ce petit goût qui est hyper, hyper bon, en fait, très caractéristique.
Mm-hmm. Ouais.
Est-ce que tout le monde en Éthiopie aime le côté vraiment acide ou il y a quand même des gens qui vont dire « Ah non, moi, je laisse très peu fermenter parce que je préfère quand c'est plus doux ».
Oui, il y a les personnes qui aiment bien le doux, mais il ne va pas à l'acidité aussi.
Ce que j'aime avec les galettes, c'est qu'elles sont toujours le reflet d'un terroir, avec la farine utilisée, mais aussi la base d'une alimentation locale et ménagère, grâce à la simplicité et au bas prix des ingrédients. Finalement, quelle que soit la région du monde dans laquelle on se trouve, les galettes sont un avatar de la cuisine, symbole comestible de dimension économique, rustique et géographique. Merci à Daniela, Louis et Tina de nous avoir donné de leur temps pour parler d'arepa et d'injera. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Listari, montée par Marine Rowe, programmée par Cassandra de Carvalho, mixée par Thomas Decour et coordonnée par Laura Cuissard avec l'aide de Clara Maté. À mercredi prochain!